Et c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et vous le savez, le vendredi, ça n'a pas changé en 2019. Le vendredi, nous sommes avec les grandes voix. Ce soir, en studio avec nous, Michel Cotta. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Bonne année. Tous mes meilleurs vœux, même si nous le sommes déjà dit hors antenne. Gérard Carrérou, tous mes meilleurs vœux.
Toi aussi, pardon.
Oui, voilà, ce sera la seule différence. Et puis Charles Villeneuve, bonne année Charles.
Bonne année.
Tout va bien pour vous trois ?
Très bien.
C'est parti, oui. Nous allons discuter jusqu'à 20h des Gilets jaunes, de la réorganisation de l'Elysée, des États-Unis et de la politique intérieure américaine. Mais d'abord, nous accueillons Benjamin Muller.
Bonsoir tout le monde, bonsoir les grandes voix. Bonne année à tous.
Comment ça va, Benjamin ?
Écoutez, ça va très bien.
Comme chaque vendredi à cette heure-ci.
Bien sûr. Vous...
Quand Charles est là, je suis toujours un peu fébrile, mais bon, on fait tout comme.
Vous venez faire le bilan de ce qui s'est dit durant la semaine dans ce grand journal du soir. Le tout, je le précise, avec une pensée de mauvaise foi.
Ah mais pas du tout, alors jamais de mauvaise foi. D'ailleurs cette semaine je ne vais pas faire le bilan mais plutôt raconter à nos auditeurs les coulisses de cette émission. Alors à l'occasion de la nouvelle année, toute l'équipe du Grand Journal du Soir est partie en séminaire à Marrakech comme tous les ans et notre rédacteur en chef qui s'appelle Marc Messier nous a fixé un objectif noble pour 2019, tripler notre audience en 6 mois. Forcément Mathieu, au début vous avez flippé.
D'abord, une question qu'on se pose évidemment un peu de manière chauvine et en tant que supporter, est-ce qu'on a de vraies chances de gagner ?
Ah Mathieu, on reconnaît là votre modestie. Si vous m'aviez demandé à moi ou je sais pas, à une grande voix, on vous aurait dit évidemment oui, parce qu'on est les meilleurs, mais vous avez demandé à Olivier Samain.
Vous vous rendez compte, ça va être chaud, chaud, chaud.
Oui Olivier, c'est pas le plus optimiste de la bande. Alors très vite Mathieu, vous avez repris le dessus avec avoir de tels objectifs, en fait, c'est pas si mal.
Ça nous permet de nous remettre en question et de nous poser les bonnes questions.
Et oui, on doit tous se remettre en question. Depuis que vous avez dit ça, on est nombreux à être un peu fébriles. Un exemple, hier, quand vous avez souhaité la bonne année à Sonia Mabrouk.
Merci Sonia, bonne année.
Mais on veut, à vous, à tous nos auditeurs, évidemment, de rester avec vous, toujours dans la bonne humeur.
Et oui, maintenant, on a peur que vous nous viriez et qu'on se retrouve au flash de nuit le week-end. Non, merci. De votre côté, avec Marc Messier, vous avez élaboré une nouvelle stratégie qui devrait fonctionner. Quand vous envoyez la pub, dorénavant, vous devez supplier les auditeurs de ne pas zapper.
On revient dans une poignée de secondes, mais vraiment, vous pouvez compter les secondes.
Et là, franchement, s'il y a un gars qui zappe, c'est à n'y rien comprendre. Deuxième mesure, Marc vous a demandé de plus vous ouvrir à nos auditeurs, Mathieu, de plus vous confier ce que vous avez fait avec pudeur, mais avec franchise.
À minuit 07, j'étais au téléphone avec ma maman.
Ah, voilà,
vous voyez précisément.
Oh là, Mathieu commence à délirer. Je ne vous cache pas que c'est ce qu'on s'est tous dit à ce moment, et c'est Justine qui a tenté délicatement, discrètement, de vous passer un message.
S'abstenir de boire de l'alcool pendant un mois, ça peut paraître dingue pour certains.
Oui, ça peut paraître dingue, Mathieu. Voilà le troisième conseil de Marc, ne venez plus à l'antenne bourré, c'est bon pour vous ?
Même moi, je m'en rendais pas bien compte.
Eh oui, on est là pour ça. Donc je résume, vous continuez de mettre la pression sur vos équipes, sauf sur les grandes voix bien sûr, vous vous livrez un peu plus à nos auditeurs, et vous arrêtez l'alcool, et dans 6 mois, on fait plus d'audience que le 13h de Pernod, c'est bon pour vous ?
Merci en ce 1er janvier, pour se projeter sur l'année 2019, merci de nous avoir éclairés.
Et je vous en prie, je suis là pour ça, on m'appelle l'éclaireur.
Merci Benjamin Muller. On ne peut rien dire devant Benjamin Muller, ou alors... Faut en payer le prix après.
Absolument.
Tout va bien. Bon week-end, Benjamin.
Merci à vous.
Merci.
Aussi.
Merci. À lundi, il est 19h23. Vous êtes sur Europe 1 et c'est parti pour le débat. Avec les grandes voix, les Gilets jaunes. Nous allons poser la question des Gilets jaunes. Nous avons ce soir parlé de la mobilisation de demain. Quelle sera-t-elle ? On ne le sait pas, évidemment. Il faut aussi être honnête. La question de la sécurité policière a été évoquée. Mais la suite du mouvement maintenant. J'avais Aïk Shahinyan, qui est un des Gilets jaunes, que l'on voit beaucoup sur les plateaux de télévision ces derniers temps. Je l'avais au téléphone. Il partait pour Marseille ce soir et il nous disait qu'il serait demain là-bas avec d'autres gilets jaunes pour, je le cite, « structurer un mouvement citoyen avec une conférence de presse à l'issue. Si les adhérents décident qu'il faut aller aux européennes, nous irons ». Voilà ce qu'il me disait sur Europe 1 ce soir. Aujourd'hui, est-ce que la solution gilets jaunes, c'est de les rassembler, qu'ils s'organisent, qu'ils créent un mouvement politique ? À qui vais-je donner la parole en premier ? Gérard ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer, pour eux, je parle, il faut changer de tactique. La phase qui a été la phase des 5 dernières semaines, des 6 dernières semaines, c'est-à-dire la phase, disons, des ronds-points, pour simplifier, tout le monde comprend, c'est terminé. C'est terminé parce que, d'abord, il fait froid, d'abord, il faut changer de tactique. Il faut, effectivement, s'ils veulent durer, s'ils veulent faire pression, devenir un partenaire politique dans le jeu politique, il faut qu'ils se structurent et qu'ils fondent quelque chose. Ça peut être à l'occasion des élections européennes, ça peut être avant, à l'occasion du grand débat. Ce qui est sûr, c'est que ça va changer. Donc, ça va changer et le gouvernement le comprend d'autant mieux qu'il il a fondé sa tactique là-dessus, en disant de toute façon, les gilets jaunes, maintenant, la grande masse n'ira plus dans les manifs, n'ira plus sur les ronds-points, et il restera qu'une frange qui sera celle que Griveaux a appelée cet après-midi ou aujourd'hui la vague des, j'avais noté ça, les agitateurs, voilà. Les agitateurs, etc., partisans de l'insurrection.
Je
trouve qu'il va beaucoup trop loin dans cette description, mais c'est une tactique. C'est la tactique qui est la suite du discours du président de la République, du dernier discours, celui de la veille, celui du réveillon, où il y avait une phase de violence. Mais je pense que du côté des Gilets jaunes, c'est changer de méthode, changer de tactique, s'organiser ou mourir. C'est à peu près ça le...
Michel Cotard.
Oui, non, ce qui caractérise les Gilets jaunes, c'est qu'ils sont hors politique, hors parti politique.
Hors parti, parce que
mais
c'est
réalité,
très politique.
Ils sont très politiques. Ah oui. Voilà, justement. Donc, s'ils sont très politiques, il faut qu'ils s'organisent. S'ils ne s'organisent pas, et le problème est celui-là. Parce que là, vous parlez du représentant des Gilets jaunes qui, à Marseille, qui essaiera de faire un regroupement. Mais ils sont beaucoup, comme ça, chacun dans leur coin, à faire des petits mouvements, et surtout sur des aspects complètement différents. Donc, il ne faut pas seulement qu'ils trouvent un groupe capable de se mettre ensemble, mais il faut aussi qu'ils trouvent un soupçon, un embryon de programme commun. Alors, on a beaucoup parlé des programmes communs il y a des années, mais là, entre eux, il leur faut un programme commun et l'organiser. Or, je dois dire, je peux me tromper, pour le moment, on ne voit pas ça venir. Alors, peut-être qu'ils réfléchiront, peut-être qu'effectivement, ils feront l'analyse qu'il y a parmi eux une frange un peu insurrectionnelle, comme l'a dit effectivement ce matin, et puis que le reste doit être structuré. Enfin, il y a un gros débat à mener entre eux et peut-être commence-t-il seulement, on le voit sur les réseaux sociaux hein, où il y a différents groupes, peut-être commence-t-il seulement à en sentir la nécessité.
Moi, ce que, pour vous dire franchement, j'ai du mal à voir si par la suite les Gilets jaunes, ce sera un mouvement, voire deux ou trois d'ailleurs, qui s'appelleront Gilets jaunes quelque chose, ou si on les trouvera dans divers partis politiques. Tous y vont en faisant très attention à ne pas avoir l'air de récupérer, mais quand même, on pense à Mélenchon évidemment,
Signal pour Drouet,
à Marine Le Pen.
Moi, je crois le contraire. Oui. Je crois le contraire de toi, Mathieu Béliard. Je crois justement que deux partis politiques, manifestement, essaient de récupérer le mouvement. Et s'ils ne se structurent pas, ils ne compteront pas politiquement et ils seront digérés dans ces deux partis.
Oui,
c'est-à-dire
aussi bien
le Rassemblement National que la France Insoumise. Parce que l'une joue, Marine Le Pen, les institutions, alors que Mélenchon joue la destitution, joue la rue, passant par la rue. On le voit, c'est très clair. Et d'ailleurs, ses principaux lieutenants, eux aussi, jouent la souveraineté du peuple, remettant en question la légitimité par le peuple qui a élu, notamment le chef de l'État, d'où il tire sa légitimité. La France Insoumise joue ce qu'ils appellent...
D'ailleurs,
il y a une interview de Corbière dans Valeurs Actuelles.
Ce qui déjà, arrêtons-nous un instant.
Est une surprise, c'est inattendu, où il dit clairement les choses. Il dit clairement les choses. Donc, bien sûr qu'ils ont, comme l'a dit Gérard, comme l'a précisé aussi Michel, ils ont intérêt à se structurer. Mais ils vont se structurer autour de quel programme politique ?
Oui, mais ils ont une marque, ils ont quelque chose de fort, c'est qu'ils ont créé... Les syndicats, il y en a qui ont émergé comme ça. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de syndicats qui n'existaient pas. À un moment donné, il y avait trois grands syndicats et il y a eu d'autres syndicats qui ont surgi, qui ont formé des marques et qui maintenant pèsent dans le jeu syndical, même si le jeu syndical, on ne l'a pas beaucoup vu dans la période des Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, ils ont créé une marque forte qui est les Gilets jaunes. Tout le monde le sait, même en dehors presque de la France, on connaît la marque Gilets jaunes.
Qui a été déposée, d'ailleurs.
Pas par eux.
Et à mon avis,
il y a eu une quarantaine de dépôts de la marque Gilets jaunes.
Mais s'ils se laissaient aller, s'ils ne faisaient pas rien, à ce moment-là, ils seraient absorbés par ceux qui cherchent à les récupérer. Par contre, il y en a quand même qui vont penser que la marque vaut la peine de créer quelque... Alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas leur penseur.
Parce que quand vous voyez des syndicats qui ont émergé comme ça...
Mais on est d'accord, on est tous d'accord, on a tous remarqué, évidemment, qu'ils ont créé un phénomène. Bon, une marque.
Voilà, une marque.
C'est vrai. Mais en dehors de la marque, quel est le contenu surtout ?
Bah, il faut qu'il le
quand
précise.
Quand tu crées un parfum, il y a du parfum au moins.
Mais
il faut
non, mais parce que Gérard, c'est intéressant, parfum. Mais quand vous disiez, par exemple, que des syndicats ont émergé comme ça, oui, mais en se battant contre une chose précise, avec un combat, avec une revendication. Là, c'est vrai, je reprends ce que disait Michel. Il y a des points communs quand même, hein, entre tous les gilets jaunes. On voit émerger par exemple cette histoire de référendum citoyen qu'on retrouve dans toutes les bouches, la question du pouvoir d'achat.
Je vous interromps. C'est un point commun sur le sigle. C'est pas un point commun sur le contenu.
Mais absolument.
Parce qu'il y a différentes sortes de
référendums. On est d'accord.
C'est bien pour ça.
Pour l'instant, il faut qu'il
Michel, Michel.
Il y a un référendum qui est fait pour se débarrasser du président, disons-le clairement. C'est ça qu'il demande. C'est ça qu'il demandait au rond-point. Et pas du gouvernement, d'ailleurs. On n'a pas de la même revendication vis-à-vis du gouvernement. Et puis, il y a des référendums qui portent, comme peut-être le proposera à Emmanuel Macron, sur des points précis, le nombre des députés, le nombre des sénateurs, le salaire des uns. Mais ça, c'est pas tellement le référendum que les Gilets jaunes attendent. Et on voit bien que de ce point de vue-là, même sous un sigle commun, il y a au contraire une multitude de volontés différentes.
Il y a une concurrence
entre Gilets jaunes.
Bien sûr. Et justement, le contenu... certains veulent ce référendum à questions multiples, ce qui est inconstitutionnel, parce qu'il faudra modifier la Constitution. C'est pas ce que prévoit la Constitution de la Ve République. Et c'est en cela que Marine Le Pen a été fine mouche dans cette affaire. Beaucoup plus fine mouche que ses concurrents. Parce qu'on se demande et on se pose la question, beaucoup d'éditorialistes de la presse étrangère se disent, est-ce qu'il y a une conjonction finalement objective comme ça a été le cas en Italie, entre la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, et que finalement ils vont s'entendre, et que va surgir de ce mouvement une sorte d'électorat populaire avec un programme populiste. C'est l'une des grandes questions qui se posent. Mais pour l'instant, celle qui a joué, d'ailleurs, chez le Premier ministre, qui est allé dire « je vous fais remarquer que je demande la dissolution, que je ne demande pas la destitution », ce qui n'est pas le cas, évidemment, de Mélenchon. C'est pour ça que je vois plus entre une concurrence qu'une alliance.
Oui. S'ils veulent exister, moi je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes. Alors c'est pas forcément ce dont on parle le plus. C'est pas forcément un Drouet ou quelques autres qui se sont illustrés eux par d'autres façons, par des provocations ou des violences. Mais je pense qu'il y a chez eux des gens qui font l'analyse que ou bien s'ils se font récupérer, ça aura servi à peu de choses, parce qu'effectivement, ils auront ajouté une petite tranche de populisme à un populisme.
À cette nuance près que toutes les enquêtes sur la composition des politiques des Gilets jaunes, il y en a beaucoup qui ne sont pas politiques, mais ceux qui le sont à 40%, disent les enquêtes, favorables au mouvement national. Par conséquent, qu'à un moment donné, ils se laissent récupérer par eux, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout, d'autant que, sinon, quelle est leur solution ? Entrer en compétition, justement, entrer en concurrence avec ce même Front National ou entrer en concurrence avec cette même France Insoumise. Ça, c'est effectivement, ce serait idéal pour Emmanuel Macron, mais pas du tout idéal pour eux.
Mais Michel, il y a un sondage qui répondait à ta question. Ce sondage sur les élections européennes donnait 28-29 points à Marine, en tout cas au Rassemblement National. Et s'il y avait une liste des gilets jaunes structurée,
elle perdait
8 points.
Oui,
elle retombait à 21 points. Et ça montre bien qu'une grande partie des gilets jaunes, de ceux qui se retrouvent sur les ronds-points, sont plutôt favorables aux revendications du Rassemblement national sur les taxes, sur le pouvoir d'achat, sur la souveraineté par rapport à l'Europe.
Même sur l'euro,
ce sont des zéros eurosceptiques.
Et j'essaie de comprendre un peu dans ce que vous dites, et il y a un point que je retiens
clair,
sur...
Clair,
c'est important parce qu'on a très souvent, très longtemps parlé des extrêmes qui se touchent, si vous voulez, d'un autre côté. Et on a une espèce de muraille entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, entre les personnalités, je veux dire. Est-ce que les gilets jaunes, justement, sont ceux qui vont... réussir cette jonction entre une extrême gauche et une extrême
droite. Pourquoi c'est pas impossible ? En partie. Parce que la fraternité, ça existe. La fraternité des Gilets jaunes sur le terrain, c'est quelque chose qui a existé. Peut-être qu'elle s'est effritée, mais ça a existé réellement. Il y a eu quelques dizaines de milliers de personnes qui ont appris à se connaître, à se rencontrer, certains venant de la certains croyant, comme on disait autrefois, certains croyant au ciel et d'autres n'y croyant pas, certains croyant à Marine Le Pen plutôt au Front National et d'autres plutôt aux disons aux idées de Mélenchon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a un pont, au moins pour l'instant, un pont virtuel qui se crée entre ces gens. Ce sont des quelque part, ce sont des populistes de droite et des populistes de gauche, et ils ont tendance, sont des populistes, et ils ont tendance à se rencontrer, et ils peuvent faire des choses
et
ensemble.
Je suis d'accord avec ça, parce que c'est pour ça que moi, j'utiliserai pas. Mais je suis d'accord sur l'utilisation du mot marque, mais je dirais que c'est un drapeau. Et le drapeau rassemble toujours. Toujours. Le drapeau, on se rassemble autour d'un drapeau. C'est ce que tu appelles la fraternité. Elle existe autour d'un drapeau. Et le gilet jaune, c'est le drapeau de tous ces gens-là.
En tout cas, moi, je crois savoir que du côté du mouvement national, on envisage quand même sans arrêt des manœuvres pour les récupérer sans avoir...
Je peux vous le dire, sans me tromper, je suis presque sûr que certains seront sur les listes du Rassemblement National. Il y a des tractations, on le sait bien.
Bien sûr.
Du Dupont-Aignan aussi, d'ailleurs.
Ça me paraît naturel, mais ça me paraît, en revanche,
empêcher
une liste gilets jaunes. Parce que si les gilets jaunes sont partout, alors ils sont nulle part, quelque part. Vous voyez ?
Et ça va scinder de toute façon le mouvement s'ils font ça. Certains ne supporteront pas que on aille voir Marine Le Pen,
l'intérêt objectif du président de la République, c'est aujourd'hui qu'il y ait une liste gilets jaunes qui pique 10 points au Front National. Ça, c'est clair.
Oui,
et que le Front National, au lieu d'être à 30%, redescende à 18%.
C'est si simple, je veux dire, c'est si évident qu'on peut penser que le Front National, que le mouvement national fera tout pour l'éviter, en tout cas.
Oui.
Alors, je ne parle pas, je ne dis pas la France insoumise, parce qu'au fond, la France insoumise, on voit bien que, justement, ce mouvement ne leur porte pas tellement, leur porte plutôt préjudice plutôt qu'autre chose. Tandis que, au contraire, avec Marine Le Pen, on a l'impression qu'il y a une jonction possible. C'est vrai que, dans l'état actuel des choses, Mélenchon n'a pas profité du mouvement des Gilets jaunes, et même, on dirait presque le contraire, parce qu'il ne change pas non plus, il n'arrête pas de changer de braquet. Alors, c'est difficile de le saisir à l'endroit où il est.
Charles ?
Il y a quand même quelque chose, je ne sais pas si ça vous choque ou intrigue. Il y a un phénomène, il y a beaucoup de gilets jaunes qui prétendent qu'ils sont le peuple. Bon. Et en même temps, dans leurs revendications et de leurs déclarations, ils délégitiment la plupart des institutions, ne considérant que même la démocratie représentative par l'élection n'est pas légitime. Et il y en a, ils sont assez nombreux. Je suis toujours étonné de les voir sur les ronds-points, souvent pas contredits par les journalistes. C'est-à-dire, quand on accuse le ministre de l'Intérieur d'être corrompu, d'avoir, je ne sais, touché quel pot de vin, etc., et qu'il faudrait le traduire, aucune question pour dire mais vous avez des preuves ?
De quoi est-ce que vous parlez ?
Mais de quoi vous parlez ? Quel est votre argument ? C'est toujours très étonnant d'entendre ça.
Moi, il y a une autre chose qui me surprend aussi.
Les infox, comme on dit maintenant.
Oui, moi, il y a aussi une autre chose qui me surprend et qui, je crois, a surpris les patrons eux-mêmes. C'est la façon dont, au fond, tous les gilets jaunes dénoncent les politiques, le tarif auquel sont payés les députés. Et Dieu sait que maintenant, c'est transparent. Tout est transparent de ce point de vue-là, leur patrimoine, etc. Mais moi, j'en ai entendu aucun faire allusion au parachute doré, au salaire des patrons, même en pleine affaire Carlos Ghosn, qui quand même nous interpelle tous, parce qu'on ne sait pas exactement, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on ne sait pas exactement ce qui est reproché à Carlos Ghosn. Mais je suis étonné, moi, de voir que tout ça se concentre sur la politique, sur les institutions, sur la démocratie, et pas du tout
sur les choses qui semblent injustes.
Et pas du tout sur les grands patrons.
Mais c'est un mouvement dont l'antiparlementarisme, comme dans le boulangisme. On remonte très loin dans l'histoire,
c'est le boulangisme
ou le poujadisme, c'est une tradition française, l'antiparlementarisme, les premiers pourris dénoncés, ce sont les parlementaires.
Le dernier mot là-dessus, Charles ?
Oui, parce qu'en réalité, aussi bien la France insoumise que le Rassemblement national se sont aperçus, comme nous tous d'ailleurs, que les partis politiques les plus classiques, le Parti socialiste et les Républicains, sont en extrême difficulté, pour ne pas dire à l'agonie. Et l'enjeu est, et c'est pour ça qu'ils font la cour, justement, et qu'ils ont des contacts, qu'ils négocient, comme vous l'avez souligné, comme tu l'as souligné, Mathieu, tout à l'heure, avec les gilets jaunes ou avec les principaux courants de ces gilets jaunes, parce qu'ils savent bien qu'il faudra quand même une force alternative, une force d'opposition. Elle n'existe pas, cette force d'opposition.
Il faut bien dire que c'est le contre-coup, c'est le contre-coup de la victoire d'Emmanuel Macron. Il a gagné en pulvérisant les partis, et les partis pulvérisés, les gilets jaunes sont arrivés.
19h40 sur Europe 1.
Europe 1.
Vous restez bien avec nous jusqu'à 20h. Le débat avec les grandes voix, Gérard Carrérou, Michel Cotta, Charles Villeneuve. Nous allons revenir dans un instant sur la réorganisation, ce remaniement d'un gouvernement que vous ne voyez pas d'ordinaire, les conseillers de l'Élysée. Nous avons parlé de Sylvain Faure hier. Restez bien sur Europe 1. Il est 19h40.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Michel Cotta, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Et nous allons reparler de cette information dont nous disions un mot déjà hier, mais qui est importante, même si ces personnalités, vous ne les connaissez pas forcément. Sylvain Faure, conseiller la plume du président qui s'en va, qui quitte l'Élysée. Charles Villeneuve, est-ce que l'Élysée va avoir besoin d'une réorganisation plus importante qu'il n'y paraît ?
Mais c'était dans les tuyaux déjà. C'était dans l'air, si j'ose dire,
une
réorganisation. De toute façon, beaucoup de cette équipe qui a fait partie de la conquête et de l'exercice du pouvoir. C'est jamais le cas d'ailleurs aux États-Unis. Le président des États-Unis, avec son équipe de conquête, la change complètement. C'est une équipe de l'exercice du pouvoir qui vient à la Maison-Blanche, équivalent l'Élysée. Mais je voudrais juste faire une observation avant de parler justement du départ de la plume. Parce que la plume, c'est très important. La plume, c'est celui qui partage avec le chef de l'État une intimité très importante et notamment toute la stratégie, tout le sens justement de l'action politique du président à travers les discours qu'il va lui écrire et qu'ajuste aussi le président. Parce qu'il ne faut pas croire que le président prend la feuille et puis parle et dit et lit le discours comme ça. Non, il modifie un certain nombre de choses. En tout cas, c'est souvent, si vous voulez, la conjugaison d'un échange très important. Mais l'observation que je voudrais faire, c'est celle-ci. Ça fait 3 collaborateurs, 2 ministres et sa plume. Autant de personnalités différentes, Nicolas Hulot, Gérard Collomb et aujourd'hui Sylvain Faure, qui quittent le chef de l'État avant le terme de leur mission et qui l'annoncent justement très souvent par presse interposée. C'est vrai pour Nicolas Hulot, rappelons-nous, je crois que c'était France Inter.
C'était sur la matinale de France Inter, oui.
Gérard Collomb par l'intermédiaire
du Figaro.
Et ensuite de l'Express.
Démission refusée, qui avait insisté dans le Figaro.
Voilà. Et puis là, par le Parisien. Qui l'annonce et qui a été repris par le Figaro, par tous les journaux, bien sûr, et nous-mêmes. Mais, et donc, il y a quelque chose quand même de commun entre ces 3, peut-être rien, mais en tout cas quelque chose. Moi, le plus étonnant pour moi, c'est le départ, à la fin de ce mois, de la plume. Pour une raison simple, c'est que je connais très bien la plume, je la connais depuis assez longtemps. Et quand il parle de ses relations problème de famille, c'est vrai, il faut le croire, c'est pas une excuse. C'est ça que je voulais dire.
C'est important parce que
la vérité, c'est qu'on entre dans une deuxième phase, on le sent bien, on rentre dans une deuxième phase du quinquennat Macron. Et c'est vrai, les gilets jaunes ont précipité ça. Généralement, il y a toujours un moment, au bout de 3 ans, où les gens changent parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont envie de faire autre chose. Et puis parce qu'ils
disent... Il faut un second souffle.
Oui, il faut un second souffle. Mais là, 20 mois, c'est pas assez pour un deuxième. Donc, on voit bien que c'est une deuxième phase et que sur cette deuxième phase, il y a sûrement une inquiétude à l'Élysée, dans tous les collaborateurs du président, comme il y a d'ailleurs une inquiétude dans le mouvement La France En Marche. On la voit bien. On voit bien même que dans La France En Marche, par exemple, il risque d'y avoir presque 2 lignes. On les voit bien.
Les
articles des uns et les articles des autres. Donc, c'est un moment sûrement important à l'Élysée. Simplement, ce que je veux dire, c'est que d'habitude, quand il y a un deuxième souffle dans un gouvernement, on change de Premier ministre. C'est ce qui s'est passé tout le temps.
C'est son rôle presque constitutionnel.
Là, c'est le contraire. Pendant ses voeux, Emmanuel Macron a bien dit que lui et le Premier ministre mèneraient ce deuxième souffle, en quelque sorte. Donc ça doit quand même effectivement être l'objet d'interrogations, de critiques peut-être à l'Élysée et à la France insoumise.
Moi, je pense qu'il n'y a pas... Je connais aussi, Charles a rappelé qu'il connaissait bien Sylvain Faure. Moi, je l'ai pratiqué aussi dans un think tank, comme on disait autrefois, il y a quelques années. C'est un homme d'une grande... d'une formidable intelligence.
On l'a pratiqué ensemble.
Oui, on l'a pratiqué ensemble. D'une grande rectitude intellectuelle. Et cet homme, et c'est tellement vrai que quand a éclaté l'affaire Benalla l'été dernier, l'affaire Benalla qui pour beaucoup de gens a marqué le début d'un processus de désagrégation un petit peu de la situation du président. Quand cette affaire a éclaté, il y a eu de grosses difficultés de communication, de grosses erreurs de communication. Le président de la République a se séparé à ce moment-là de celui qui était en charge de la communication pour demander à Sylvain Faure de s'occuper, de prendre en main la direction de la communication, tâche pour laquelle Sylvain Faure n'avait pas de goût. Mais comme on dit, dans ces cas-là, on fait le job. Il a donc accepté la mission et il a fait le job. Je me dis, mais ça c'est une...
Mais c'est quand même deux missions, parce que c'est important pour ceux qui
nous écoutent. Oui, c'est deux choses différentes. Écrire les discours,
la plume et d'être responsable de la communication.
C'est un exercice, absolument, Charles l'a bien raconté, c'est un exercice intellectuel, c'est un duo singulier, un colloque singulier.
De proximité intellectuelle, voilà. Vraiment.
Donc c'est un... Oui, mais la proximité avec le président, il l'avait, il l'a donc gardé dans ce rôle. Mais ce qui m'interpelle, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est de dire... Il part, il a 46 ans, il a des enfants, comme chacun, il a envie de se consacrer un peu à sa famille. Mais tout ça n'est quand même pas suffisant pour interpréter son départ à ce moment de la difficulté politique. Il y a autre chose. Et je me dis que peut-être, il n'a pas pu exercer sa fonction comme il aurait souhaité. Est-ce qu'il a pensé que d'autres personnes ne lui donnaient pas l'accès aux informations ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce garçon est d'une grande rectitude et il ne part pas simplement pour prendre des vacances.
Non, de toute façon, on ne peut, pas croire qu'à son âge, et étant donné l'endroit où il est, on part pour convenance personnelle et pour s'occuper de ses enfants. Ce n'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est autre chose. Là, bon. Je crois qu'on peut tous tomber d'accord là-dessus.
Moi, je ne suis pas d'accord, mais... non, je ne suis pas d'accord. Mais voilà, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je comprends parfaitement que tu le dises. Et simplement, on peut être... Pour moi, c'est une erreur de casting, hein, l'histoire
quand il arrive à la com au moment de la campagne,
c'est une erreur de casting. Non, non, mais c'est un garçon qui sait mener une campagne de communication. Il sait la mener. Il en a mené d'autres. Je ne vais pas revenir sur sa vie. Elle lui appartient. Bon, mais avec beaucoup d'efficacité et de précision. Simplement, il peut être surpris, comme directeur de la communication, que par des révélations dont il aurait dû être au courant, informé.
Tu dis la même chose que moi,
oui,
d'une autre manière.
C'est ce que je dis.
Tu le dis.
Mais
alors,
moi,
alors,
je trouve que.
Mais
moi, il le dit plus près du micro, Gérard.
Rapproche-toi. Oui, précise ton propos, Charlie.
Non.
Il y a des informations qu'il n'a pas eues en temps réel, qu'il aurait dû avoir.
C'est une hypothèse qui rejoint celle de Gérard. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Moi,
je voudrais juste finir sur quelque chose. Et la tienne aussi, bien sûr, Michel. Je ne suis pas là pour, évidemment, jouer au gilet jaune sur... Non.
On n'est pas sur un
si vous voulez, toutes ces affaires-là montrent bien que, si vous voulez, il y a une construction politique qui a porté au pouvoir le président Macron grâce à son talent aussi, bien sûr, et à des ralliements de tous bords, mais qui montre aujourd'hui qu'elle est fragile, peut-être même friable.
Ouais, je crois que là-dessus...
Il y a un point, moi, juste, parce que vous avez rappelé à juste titre les départs de Nicolas Hulot et de Gérard Collomb. Ça fait trois cas où Emmanuel Macron n'a... Alors, par voie de presse ou autre chose d'ailleurs, mais où il n'a pas la main, en fait, sur ses départs, où il les subit. Dans les trois cas, il les subit.
Oui, mais justement, ça prouve quand même...
Ça prouve une certaine solitude du pouvoir.
Ça prouve une certaine solitude du pouvoir et une certaine solitude de Macron à l'intérieur. Et si son plus proche collaborateur, celui de Sylvain Faure, en vient à la même conclusion...
Parce que là, on est dans le premier cercle.
C'est vrai que c'est très perturbant, en tout cas.
Surtout qu'on dit que le secrétaire général de l'Élysée pourrait suivre aussi le même chemin.
Nous verrons justement Michaël Darmon évoquer d'autres départs possibles à l'avenir. Charles, un dernier mot là-dessus.
Mais parce que moi, je trouve qu'il y a un paradoxe qui émerge aux yeux de l'opinion actuellement. Rappelons-nous que le président de la République s'est présenté comme le candidat qui allait bousculer le et les systèmes, c'est-à-dire tout l'ordre établi. Et aujourd'hui, il apparaît aux yeux d'une grande partie de l'opinion qu'il est l'archétype, justement, représentatif du système. Et c'est ce qui fait peut-être que sa construction est friable.
Comment pourrait-il en être autrement quand on est à l'Élysée, chef de l'État
rattrapé par le système.
C'est pas si facile de s'inscrire en marge d'un système démocratique qu'on est destiné à présider.
19h51. Europe 1. Vous êtes sur Europe 1. Dernier tour de table dans quelques secondes seulement. Comme Benjamin Muller se moquait de moi tout à l'heure. Vous pouvez compter les secondes. J'ai la pub sous les yeux. On revient dans un instant. Nous allons parler un peu des États-Unis. La classe politique américaine divisée, le Congrès divisé. Restez bien sur Europe 1. Il est 19h51.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carreau.
Les États-Unis et leur démocratie qui est différente de la nôtre. Un budget, il doit être voté avant que les sous puissent sortir des caisses. Et quelque part, c'est ce qui se passe. Le budget n'est pas validé par les parlementaires, pour la faire très simple. Et résultat, les administrations publiques sont sous ce que l'on appelle le shutdown. Il va falloir que les Américains, les politiques américains, se mettent d'accord, démocrates et républicains. Les démocrates qui ne veulent pas financer le mur de Donald Trump, qui apportent quelques solutions maintenant qu'ils ont pris la Chambre des représentants, et qui, c'est des solutions qui ne semblent pas satisfaire les républicains. L'Amérique, on a beaucoup dit l'Amérique est divisée. Là, Gérard, l'Amérique est bloquée.
L'Amérique est bloquée parce qu'il y a une chambre à majorité républicaine, c'est le Sénat, et une chambre maintenant, depuis les midterms elections, une chambre à majorité démocrate. Et le budget, il faut qu'il soit voté, par la première chambre, la Chambre des représentants, et ensuite il est adopté par le Sénat. Ouais. Et là, la Chambre des représentants, avec sa nouvelle patronne maintenant, oula, qui est Madame Nancy Pelosi, qui est une rude, une dure de dure, et elle a dit à ses troupes, elle a dit au moment des élections qu'elle allait mener la vie dure à Trump, et elle lui mène la vie dure. Donc le symbole, c'est le mur. Ce mur, c'est pas que ça coûte tellement cher. Par rapport au budget américain, c'est 5 milliards de dollars, je crois.
Ça représente.
Oui. Mais c'est le symbole. C'est le symbole.
C'est la promesse de Trump.
Voilà.
Build the wall.
Voilà. Il veut pas y renoncer parce que c'est une de ses promesses électorales. Et comme il est déjà dans sa tête en voie de nouvelles présentations pour la prochaine fois, il dit si je me fais battre sur le mur, je serai beaucoup moins crédible pour me représenter en disant voyez ce que j'ai fait. Donc il se bat contre, mais du coup il y a un quart des fonctionnaires américains pour l'instant qui sont pas payés. Alors vous me direz, heureusement pour les Américains qu'il y a moins de fonctionnaires américains qu'il n'y a de proportionnellement, il y a moins de fonctionnaires.
Le ratio
est beaucoup plus faible. Mais quand même, un quart de fonctionnaires...
Il faut s'imaginer en France quand même, avec un système comme celui-ci, nous aurions toutes les administrations publiques fermées. Michel Cotta,
non, il faudrait un système qui bloque comme ça. Les musées seraient fermés, les parcs nationaux seraient fermés.
Ouais, il faut dire que ça ne porte pas seulement sur les 5 milliards que représente donc ce mur de séparation avec le Mexique. C'est sur ce que ça représente, quand même. C'est ce que ça représente de fermeture des États-Unis sur eux-mêmes, dont ne veulent pas les démocrates. Ce que ça représente dans la lutte contre l'immigration, qui, franchement, là-bas, est moins difficile. Ouais, et peut-être un peu plus ancienne et moins difficile à supporter pour l'ensemble des pays. Donc, c'est surtout ce concept-là qui sépare profondément les démocrates et les républicains. Et là-dessus...
Et c'est la personne aussi, Michel,
j'ai entendu dire que
Trump aussi.
Non, mais il paraît que, justement, d'autres solutions peuvent être envisagées. J'ai vu que je ne sais qui près de lui disait, je ne sais pas si c'est son Sylvain Faure ou un autre, qui disait, mais on n'a qu'à faire construire des barrières, des kits jetables, peut-être. Mais ça, apparemment, ça ne marche pas. Mais il y aura sûrement, à terme... un compromis qui fera de ce mur peut-être une passoire.
C'est le mot The Art of the Deal, c'était le livre de Donald Trump, absolument. L'art de la négociation. Charles, pour terminer ce soir.
Non, mais la bataille politique conduite par Mme Pelosi, on le voit d'ailleurs sur la photo à la Maison Blanche, où elle est assise avec...
Très raide,
etc. Où elle est là, elle va mener la vie dure. Et d'ailleurs, lui, il ne la regarde pas, il regarde ses petits. De toute façon, on voit très bien. Mais c'est vrai que tu as raison de dire que elle est pleine de symboles aussi, cette bataille. Et notamment, dans le cadre de la réélection, comme le disait Gérard, lui, il y tient beaucoup, et les autres font le combat parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'il soit réélu. Mais c'est quand même vu de France de manière un peu simpliste, une bataille de dingo, quoi. Sincèrement.
Je crois que c'est un mot de la fin parfait. Ouais. Si ce n'est que je voudrais citer le mail d'Adeline. Je remercie tous les auditeurs qui nous ont appelés cette semaine, à qui je vous souhaite une merveilleuse année 2019. Adeline nous écrit, je crois que Mathieu apprend beaucoup avec les grandes voix. Grand privilège que de dialoguer avec eux. Je voulais absolument lire Adeline parce que oui,
Adeline,
c'est vrai.
Adeline,
voilà.
Merci Adeline.
Adeline,
bonne année,
Adeline. Fidèle parmi les fidèles. Il est 19h56. Merci de nous avoir suivis sur Europe 1. Merci à Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Michel Cotta, les grandes voix le
et
vendredi
Adeline.
Soir.
Et
merci, un grand merci. On embrasse Adeline très fort. 19h56. On va passer à la musique avec Karima Charny.
Bonsoir
Karima.
Bonsoir Mathieu.
Comment ça va?
Très bien et vous?
Très très bien.
Alors on a écouté votre émission, vous avez parlé de sujets très importants, mais il y a un autre sujet qui est très important. Oula. Et qui concerne tous les Français.
Allez-y.
Aujourd'hui nous sommes vendredi et aujourd'hui c'est le week-end.
Pour Coldplay comme pour les autres.
Exactement.
Hymne, c'est ça, non? J'ai un doute sur le titre de la chanson.
C'est absolument ça, Mathieu. Vous êtes très très bon. Hymne for the Weekend en duo avec Beyoncé. Exactement. Donc on va amener les
on
auditeurs d'Europe 1.
On dit pas Beyoncé comme ça. En duo avec Madame Beyoncé.
Madame
s'il vous plaît,
Beyoncé. Ah, moi je dis plutôt Madame Madonna par rapport aux ventes d'album. Madonna
on
reste au-dessus.
Une fois.
Avec grand plaisir, quand vous voulez. Voilà, on va emmener tranquillement nos auditeurs. Passer ce week-end, voilà. On va l'aborder tous ensemble et en musique.
C'est une très très belle idée. Très bonne soirée en musique sur Europe 1 avec Karima Charny. Pour ma part, je vous retrouve lundi, le grand journal du soir. Le week-end, c'est avec Philippe Vandel. Bon week-end à tous. Bonne reprise pour ceux qui reprennent lundi matin. Ombline, bon week-end.
Merci, bon week-end Mathieu Béliard. À lundi 17h et à tout de suite avec Marguerite Lefebvre pour l'information sur Europe 1.